Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans À quoi qu'on joue, votre rendez-vous mensuel sur le jeu et sur l'actualité ludique de la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu, j'animerai cette émission. Alors, comme chaque mois, je reçois un ou plusieurs invités qui viennent nous parler de leur actualité ou partager avec nous leur passion. Aujourd'hui, je reçois Camille et Erwan du bar à jeux Ludique & Ludique, avec qui nous allons parler des nominations des As d'Or de cette année. Bonjour les amis.
Bonjour Daoud.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien?
Ça va bien et toi?
Oui, ça va, ça va, ça va. est-ce que vous voulez bien, même si vous êtes déjà venu de nombreuses fois dans l'émission, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît?
Bonjour à tous, du coup moi c'est Camille, donc du bar à jeux Ludique & Ludique. Voilà, on a ouvert le bar il y a un an maintenant. Et puis sur Nevers, donc place Guy Coquille, et du coup on vous présente plein de jeux. Voilà, nous notre passion c'est les jeux de société, et on essaye de faire passer notre passion à travers notre travail en vous présentant ça du mieux que possible.
Exactement.
C'est drôle, c'est drôlement bien dit.
Et moi du coup c'est Erwan, donc on travaille tous les deux au bar exactement, et on va essayer de vous présenter un petit peu tout ça, la sélection des As d'Or, de façon la plus simple possible et la plus synthétique possible.
Très bien, merci. Alors vous le savez, j'ai un petit gimmick pour l'émission. À chaque invité, je dis, vous savez, notre émission s'appelle « À quoi qu'on joue ?» Et vous, à quoi vous jouez? Alors en ce moment, à quoi vous jouez? Je précise en ce moment.
Hein. Oui. en ce moment, on teste les As d'Or justement, parce qu'il y en a pas mal auxquels on n'avait jamais joué. Voilà, et puis après on joue beaucoup à un jeu aussi qui s'appelle Sky Team. Qu'on aime énormément, c'est un jeu de joueurs uniquement, où il va falloir réussir à faire atterrir un avion en temps, en heure,
C'est l'oublié de notre As d'Or.
Ouais, exactement,
c'est un petit peu ça,
d'accord.
On espérait qu'il y soit, ouais, parce qu'il est vraiment bien, et c'est des petites parties courtes, c'est hyper marrant, et voilà.
Bon. Alors, donc c'est la troisième fois que vous venez, c'est la troisième année consécutive où on fait nos pronostics de l'As d'Or. Alors, au moment où nos auditeurs vont écouter cette émission, le verdict sera déjà tombé. Donc on va voir si ça va permettre de voir aux gens si nos pronostics ont été bons, encore une fois cette année. L'an dernier, on n'avait pas été trop mal, on avait presque tout trouvé, je crois.
Ouais, c'était facile l'année dernière.
C'était facile. D'ailleurs, cette année, qu'est-ce que vous pensez de façon globale de ces nommés aux As d'Or?
Alors je sais pas si c'est nous qui avons moins joué cette année ou si la sélection est un peu plus particulière, mais on a eu pas mal de surprises et pas mal de jeux auxquels on n'avait pas joué pour le coup. Donc c'est pour ça qu'on se rattrape en ce moment pour essayer de tester tout ça. Et sinon, la sélection elle est assez, un peu comme l'année dernière, assez inégale à notre sens, enfin à mon sens en tout cas, avec des jeux qui on s'attendait pas à les trouver là et d'autres qui ont vraiment bien leur place, mais voilà.
Et toi Camille, qu'est-ce que tu as pensé?
Je suis un peu d'accord avec ça, je pense qu'il y a des jeux qui c'est évident, dont l'évidence est là pour un As d'Or en tout cas, et le reste qui sont plus des mises en avant en fait de jeux, parce que ça fait une super visibilité d'être nommé aux As d'Or même si on ne le gagne pas, et du coup c'est des jeux qui le méritent tout à fait, mais qui sont des surprises parce que c'est des jeux qu'on ne connaît pas forcément. Mais du coup, justement, d'où l'intérêt.
Alors, on rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, l'As d'Or, c'est donc le festival du jeu en France. C'est la récompense qui va être donnée au festival de Cannes, comme pour le cinéma, mais fin février pour les jeux. Donc, les jeux qui reçoivent ou qui sont nommés aux As d'Or sont généralement des gages de qualité. D'ailleurs, dès le mois prochain, on verra apparaître dans les commerces sur les boîtes de jeux le macaron nommé ou As d'Or selon l'une des quatre catégories. Donc, on rappelle les quatre catégories. Enfant, initié, qui peut être assimilé en fait à famille, puisque c'est des jeux qui sont pas trop difficiles, tout ça. Et puis une catégorie expert, et finalement la catégorie As d'Or pour le meilleur jeu de l'année. Moi aussi j'ai trouvé cette sélection un peu bizarre cette année. Autant l'an dernier je trouvais qu'il y avait des espèces de projecteurs sur... Il y avait trois jeux, il y avait clairement un jeu qui allait gagner, et c'est pour ça que nos pronostics ont été bons, parce que c'était pas dur, il n'y a pas vraiment eu de surprise et tout ça. Cette année moi je suis vachement surpris de la sélection. Alors comme chaque année je ne connais pas particulièrement les jeux enfants, mais au niveau initié, expert, je trouve cette sélection un peu bizarre, un peu... Des jeux pas sortis de nulle part, mais voilà, je trouve ça... Clairement, je m'attendais à d'autres titres. Et alors, je suis très, très surpris par cette sélection des trois jeux pour l'As d'Or. parce que j'aurais mis aucun de ces trois-là.
D'accord.
Clairement. Donc, mais on va y revenir. Alors, juste pour revenir sur le festival de l'Asdor, ça existe depuis 1986. Cette année, ça va se dérouler du 22 au 24-25 février. Et il faut savoir que lorsque le jury fait son choix pour les jeux, il y a aujourd'hui 7000 jeux qui sortent de façon internationale par an. Des jeux français sur ces 7000, il y en a 1200. Et donc le jury fait son choix parmi ces 1200 jeux. Alors attention, pour qu'un jeu soit éligible, il faut qu'il y ait le nom de l'auteur qui apparaisse sur la boîte, sinon le jeu ne peut pas être éligible, ne peut pas être nommé pour l'Asdor.
Et de l'illustrateur, je crois, non ?
Non, il n'y a que l'auteur.
Que l'auteur qui est obligatoire, oui.
Mais il ne serait pas impossible de voir arriver d'ici peu que l'illustrateur soit obligatoire aussi. Enfin, le monde du jeu de plateau, je ne sais pas ce que vous en pensez, revendique vraiment le métier d'illustrateur depuis quelques années.
Ah oui, bien sûr.
Et
oui,
le mettre en valeur. Et ils ont bien raison, parce que c'est quand même l'illustration qui souvent.
Beaucoup.
Ouais, c'est un jeu peut être mieux selon les illustrations.
Ah, exactement.
Tiens, si on veut un exemple frappant, moi je joue à Ark Nova en ce moment. Qu'est-ce qu'il est moche. Alors en fait la boîte est magnifique, les plateaux de jeu, il n'y a rien à dire, mais les cartes, moi j'ai l'impression de jouer à un vieux jeu Nathan des années 80, les photos d'animaux, les photos des experts.
Ah oui, non, mais c'est que des photos, donc
c'est rude,
c'est assez particulier.
C'est rude, ouais.
Disons que c'est un parti pris.
Ouais. Bon, ça n'empêche pas que le jeu soit bien, heureusement, mais voilà. Alors, attaquons nos nommés aux Asdor avec cette première catégorie qui est la catégorie enfants. Avec trois jeux nommés, on a Puzzle Aventure, Maurice le Dodo et Super Miaou. Bon, on sent en titre qu'on est bien dans la catégorie enfant.
Oui.
Qui veut commencer avec quel jeu ?
Eh ben, du coup, sur Super Dodo, ça va être...
Maurice le Dodo.
Maurice le Dodo,
alors,
pardon.
Maurice le Dodo.
Et c'est Super Miaou.
C'est un jeu d'Émilie Soleil, de Jérôme Soleil. C'est illustré par Guillaume et c'est édité chez Blue Orange.
Donc ce jeu, en fait, c'est un petit peu un jeu d'adresse, entre guillemets. Il va y avoir le dodo qui va essayer de protéger ses œufs d'un aventurier. Et du coup, il va falloir faire glisser le dodo sur une petite rampe sans que les jetons œufs se retournent, entre guillemets, se cassent, pour pouvoir aller les protéger. Du coup, c'est un petit jeu d'adresse, de pile ou face, un peu, si je peux dire.
Ouais. Donc avec des règles ultra simples.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Vraiment, dans les grandes lignes, on va faire comme l'an passé, c'est-à-dire qu'on va pas trop s'étendre sur les jeux enfants. On va prendre plus de temps pour les autres catégories, parce que c'est des jeux qu'on va être plus à même de pratiquer. Mais alors, Maurice, le dodo.
Bah, du coup, c'est rien de plus qu'un pile ou face, mais en mode beaucoup plus marrant, où on a un aspect un petit peu ludique, où on fait dévaler la figurine de dodo sur la cascade en espérant que l'œuf ne se casse pas, donc c'est-à-dire qu'il tombe sur la mauvaise face, en gros.
Ouais.
Donc pour les enfants, je pense que c'est très bien, même pour les très jeunes enfants, c'est vrai, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour plaire, avec des belles couleurs, des petits jetons, du petit matériel, des trucs un peu marrants, on espère que ça tombe sur la bonne face.
Bon, voilà. C'est édité par Blue Orange, ils font du bon boulot,
ouais, enfin, c'est
ils,
ça,
ils
voilà,
sortent
ouais.
des produits ouais. qui sont bien finis.
Faire tomber des trucs, ça va plaire aux enfants.
Oui, c'est sûr.
C'est pas des chats, c'est des enfants, ça va pas...
Ah, pardon.
Alors ensuite, on a Puzzle Aventure. Puzzle Aventure, c'est un jeu de Antonin Bocara et Romaric Gallonnier, et c'est illustré par Arnaud Boutil, et c'est édité chez Gameflow. Alors, Puzzle Aventure, qu'est-ce que ça donne ?
Eh ben, du coup, c'est un jeu de puzzle, donc il faut d'abord faire un puzzle qui est relativement simple. Après, c'est un puzzle pour enfants, et une fois que le puzzle est terminé, on va choisir un point de départ, un aventurier, il va falloir le trouver sur le puzzle, et on va pouvoir retourner la pièce du puzzle qui contient cet aventurier, qui va nous donner des instructions pour la suite. En fait, c'est un petit peu un jeu de chercher trouve à la chercher Charlie, chercher l'aventurier, et ensuite, quand on aura l'aventurier, on va devoir chercher le sandwich qu'il va devoir récupérer pour partir à l'aventure, etc. Et donc, on va avoir comme ça quatre petites aventures à faire, où il va falloir trouver des choses sur le puzzle.
Faire du jeu de plateau avec du puzzle, c'est une mécanique de jeu qu'on voit depuis deux ans maintenant. C'est des gens, entre autres, comme Exit, qui ont lancé un peu avec des puzzles escape game. Je ne sais pas si vous en avez fait.
Alors, des puzzles escape game Exit, on n'en a pas fait.
Oui, mais après, il y en a d'autres.
Ouais, on en a fait d'autres marques, quelques-uns. Ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du jeu de plateau via le matériel et la mécanique puzzle ?
Souvent, quand même, quand on est habitué à faire des puzzles, ce n'est pas des puzzles... très bien fait et simple, donc sur le matériel de jeu c'est un peu moyen, et puis après sur vraiment les énigmes c'est plutôt complexe pour le coup, donc il n'y a pas trop d'aide en plus de choses un peu faciles, évidentes, et on n'est pas spécialement plongé dans une histoire. Après ça reste agréable d'essayer de faire le puzzle, et puis une fois qu'on l'a terminé, que ce soit pas juste on a fait un puzzle et hop on le range, il y a au moins quelque chose derrière, donc je trouve ça plutôt sympa.
D'accord. Et ce puzzle aventure en particulier, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah, ça me paraît assez adapté aux enfants, puisqu'il est assez joli, et puis les enfants aiment bien faire des puzzles de manière générale. Après, il a très peu de rejouabilité, parce qu'une fois qu'on a fait le puzzle une fois, puis ensuite on a fait une aventure, bah, en fait on peut le faire quatre fois. mais les enfants, je pense que ça les dérange pas de jouer, rejouer, refaire les mêmes choses. Donc ça me paraît assez adapté, et puis c'est sympa d'avoir un jeu comme ça dans une sélection pour une fois. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un puzzle aux Azores.
Oui, c'est la première fois. Oui.
Ouais. Donc c'est une bonne chose, c'est bien.
Et alors, le dernier, c'est Super Miaou. C'est un jeu de Guillaume Desportes, qui est illustré par Olivier Desrouteaux, et c'est édité chez Spyceco. Alors, Super Miaou, de quoi ça parle ?
Super Miaou, c'est un jeu de deck building.
Ouais.
Du coup, on va devoir... Donc, le deck building, c'est que vous avez une pioche de départ avec certaines cartes qui sont un peu basiques. Et puis, vous allez devoir, au fur et à mesure, aller acheter des cartes pour compléter votre pioche, qui va vous permettre d'avoir des cartes améliorées. Et là, c'est en version enfant, donc version très simplifiée. Et moi, ce que j'aime, c'est que du coup, ça amène vers des jeux plus compliqués, et en tout cas vers des mécaniques de jeu sur des jeux adultes. Et ça emmène les enfants vers des jeux plus intéressants aussi. Donc moi, je trouve ça sympa d'avoir proposé ça.
Alors, par rapport à ces trois jeux nommés dans la catégorie enfant, si vous deviez avoir un... Enfin, est-ce que vous avez un pronostic sur l'un de ces trois jeux ? Et si oui, lequel ?
Bah, c'est difficile à dire. Alors, on a joué effectivement à aucun. Donc, c'est plutôt, on va dire, au pitch qu'on peut choisir. Ouais. Moi, je serais plutôt sur Puzzle Aventure parce que je trouve que la mécanique est vraiment très adaptée aux enfants. Et ça peut être un jeu qui, je pense, peut être très attachant très vite, à mon avis. Mmh. Donc, voilà.
Et toi, Camille ?
Et moi, ce serait Super Miaou, justement, pour le fait de pouvoir emmener les enfants vers des jeux plus intéressants.
Ouais, moi aussi, ce serait Super Miaou pour exactement la même raison, mais j'ai peur qu'il ne gagne pas parce que la mécanique de deck building n'est peut-être pas forcément adaptée à un public vraiment jeune.
Oui.
Donc, on rappelle, le deck building, vous avez quelques cartes au début, vous en piochez bien, vous allez devoir vous construire un deck, donc une pioche de cartes avec laquelle vous allez jouer au cours du jeu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeux, et on en trouve pas mal dans les jeux experts qui ont cette mécanique-là. C'est vrai que c'est un peu étonnant de trouver ça chez un jeu enfant, mais c'est en même temps vachement bien parce que, comme tu disais, Camille, ça peut permettre d'amener sur des mécaniques de jeu plus élaborées que du vulgaire lancer des bougies de pion, quoi. Voilà. Je vous propose, les amis, qu'on fasse tout de suite un petit interlude musical puisque vous nous avez apporté notre programmation musicale. Alors, on va écouter un morceau fait par Melody Cabros qui s'appelle Chop Suey, une reprise de Sony. C'est parti.
Thank you.
Et voilà, c'était Mélodie Cabros avec une reprise de System of a Down de Chop Suey. C'est lequel de vous deux qui a choisi ça?
C'est moi. C'est Ron.
Ouais. Il lève le doigt. Alors, vous avez du mal, vous avez du mal à le voir à la radio. Alors, c'est quoi? Ça vient d'où?
Alors, du coup, c'est un groupe dont j'avais déjà apporté un morceau, je crois, l'année dernière, justement.
D'accord.
C'est deux Italiens qui se produisent sur YouTube et qui sont un petit peu spécialistes dans la reprise de plein de morceaux, mais en changeant complètement l'ambiance, la tonalité. L'année dernière, j'avais emmené un morceau de Rammstein repris en mode jazz.
Oui.
Et là, donc, c'est un morceau de System of a Down qui est repris en mode acoustique, en gamme majeure, positif, hyper joyeux, alors que normalement, c'est un morceau qui est plutôt, plutôt triste. Et violent, alors que là c'est doux et gai.
Merci pour cette découverte, Erwan. Alors on a une deuxième catégorie, c'est cette catégorie qui s'appelle Initié. Donc elle s'appelle comme ça depuis l'an dernier. Et c'est vraiment les jeux familiaux. Hein, donc c'est pour ça qu'on disait qu'on peut l'amalgamer à famille. Alors cette année, on a donc, comme d'habitude, trois nominés. On a Elia et l'éclat de la montagne, on a Faraway et on a Cat in the Box. Alors par lequel vous voulez commencer? Lequel on mange en premier?
Eh ben, Elia et l'éclat de la montagne.
Ouais, alors c'est un jeu fait par Jeffrey... bon, il a un nom bizarre, c'est... Bon, bref, voilà, il est fait par Jeffrey. Il est illustré par Roxy Dye et c'est édité chez Yellow. Alors, on sait, encore une fois, hein, c'est un distributeur, un éditeur de jeux qui fait des jeux qui sont plutôt bien finis. Qu'est-ce que ça donne au niveau du pitch et du gameplay?
Du coup, c'est un jeu d'aventure, en fait, où vous allez devoir faire des choix qui vont modifier un petit peu ce qui va vous arriver dans l'aventure. Pour l'instant, on n'a fait que la moitié des aventures du jeu.
Ouais.
Moi, je trouve que les mécaniques sont très enfantines. Enfin, c'est très simple, vous avez une carte, choix A, choix B. Et en fonction du choix que vous avez fait, ça va modifier des choses. Mais pour l'instant, il n'y a pas de complexité. Alors peut-être que dans les aventures qui nous restent, ça va un peu se noircir. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un jeu plutôt très enfantin. Ouais.
C'est vraiment un livre dont vous êtes le héros, mais version jeu de société. Donc on retrouve ces sensations de prendre des embranchements, d'essayer de dire « Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à droite, je vais à gauche, j'aide telle personne, etc. » Le matériel est très bien, c'est très bien édité, c'est une grosse boîte qui fait peur au début, mais en fait non, c'est vraiment, c'est assez simple finalement. Voilà, et donc c'est un jeu solo qui peut donc se jouer à deux comme tous les jeux solo, on prend les décisions ensemble, on regarde les choses ensemble, mais après plus que deux, je pense que c'est compliqué, pas très pratique quoi.
D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution aujourd'hui du jeu solo? Ce que j'entends par évolution, c'est le fait qu'il y a encore 3-4 ans, en fait avant pandémie, j'ai envie de dire, il n'y avait pour ainsi dire pas de jeu solo, et depuis on voit presque tous les jeux maintenant avoir un mode solo, et il y a de plus en plus de boîtes qui nous annoncent, au lieu de nous annoncer 2-4 joueurs ou 2-6 joueurs, qui nous annoncent à partir de 1.
Ouais, c'est devenu vraiment quelque chose de presque obligatoire, en tout cas dans tout ce qui est jeu expert, où il y a vraiment beaucoup de gros joueurs qui n'ont pas forcément de quoi jouer tous les jours, qui ont envie de jouer beaucoup et donc du coup qui trouvent leur bonheur dans des gros jeux qu'ils peuvent jouer tout seuls, tout simplement.
Ouais.
Alors nous on joue très peu à des jeux solo, voire même pas du tout, parce qu'on joue toujours ensemble, en fait on est toujours à deux au moins. Mais ouais, les jeux solo c'est une bonne chose. Après c'est pas forcément développé de la bonne manière quand il s'agit de dire bah on joue et puis on essaie de faire le meilleur score, puis la prochaine fois j'essaierai de battre mon meilleur score.
Ouais, bon,
c'est pas passionnant. Après il y en a d'autres qui développent vraiment des gros algorithmes, des choses vraiment, des modes de jeu avec du matériel spécifique pour deux joueurs, qui font des choses vraiment très très poussées. Je pense notamment à David Turchi, qui est un auteur qui est très très connu pour ses modes solo, qui est demandé par beaucoup de jeux. Et voilà, non, c'est bien que ça se développe en tout cas.
Après, je pense qu'il y en a, il y a des premiers qui l'ont fait et du coup, c'était très bien fait parce que vraiment, c'était pensé pour. Et puis, c'est un petit peu devenu un phénomène de mode. Donc maintenant, c'est pratiquement obligatoire d'avoir un mode solo sur des jeux, sur des gros jeux en tout cas. Et du coup, il y en a certains, bah, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment pas adapté.
Ouais.
Et ça aurait été mieux que ce soit pas fait finalement. Mais je trouve ça très très bien de pouvoir essayer de tendre vers ça, en tout cas pour que le jeu puisse devenir accessible au plus grand nombre. Après, pour moi, le jeu, c'est jouer ensemble. Donc jouer de manière solo, c'est bien pour apprendre les règles quand justement on va pouvoir aller faire une partie avec les copains derrière.
Ouais.
Mais le jeu solo en soi, je trouve ça un petit peu dommage aussi quand même.
Mais alors moi j'ai fait, pour ainsi dire, aucun jeu solo, j'ai 50 missions. J'ai essayé 50 missions jeu solo. Ouais, tu peux rire.
Je ne savais même pas que ça existait.
Il y a un mode solo, et c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas beaucoup de jeux solo dans la ludothèque, donc je voulais essayer, donc j'ai joué à celui-là. Et finalement le ressenti, c'était un peu triste déjà de jouer tout seul, mais surtout j'ai eu, comme le matériel de 50 missions c'est des cartes, j'ai eu l'impression de faire une réussite, mais pour de vrai.
Ouais.
Mais ça, c'était peut-être ce côté carte quoi, qui donnait cette impression-là, et ça m'a pas donné envie de réessayer d'autres jeux solo. Mais j'ai acheté quand même les micro games ou les pocket games, je sais plus.
Ouais.
Ces tout petits jeux là dans les étuis en cuir.
Ouais.
Je l'ai pas essayé. En réalité, j'ai acheté il y a un an, j'ai toujours pas essayé. Ils ont une gamme de jeux vraiment solo étudiés pour être joués tout seul.
Il y a des très bons jeux solo là-dedans.
Et il paraît, les critiques sont très bonnes, mais bon, bah du coup, pas encore testé en vrai. Et c'est vrai que autant t'as la motivation de sortir un plateau ou de déballer un jeu quand t'as du monde à la maison, même aux dévotés, que tout seul, c'est pas la même démarche, c'est pas la même envie. Alors, je suis quelques groupes sur Facebook qui sont spécialisés dans le jeu solo maintenant, avec des propositions de jeux ou des demandes et des explications parfois sur les jeux qu'ils ont testés. Mais j'arrive pas à choper l'envie de jouer tout seul comme ça.
Même Ark Nova, tu l'as pas essayé en solo ?
Non, du tout.
Ouais.
En fait, si j'ai envie de faire une partie d'un jeu, maintenant, on en a parlé beaucoup, on va pas trop revenir dessus parce qu'on en a parlé beaucoup avec Nono le mois dernier, mais il y a BGA, c'est-à-dire on va jouer en ligne.
Ah, oui,
et du coup, on trouve automatiquement un joueur. On a résolu ce problème de dire je joue tout seul parce que j'ai pas de joueur à portée de main. Et avec le choix que nous apporte BGA pour pouvoir jouer, c'est vrai que. Enfin, le choix de jeu, tu trouves. T'es censé trouver chaussures à ton pied. Quoi.
C'est quand même différent, je trouve, de jouer sur BGA. Enfin, c'est un autre débat, mais.
Alors, c'est différent. La pratique, elle est pas pareille parce que tu restes quand même tout seul. Hein. T'as pas tout le cadre social qu'accompagne une partie de jeu de plateau ou de jeu de société, pour le coup. C'est pour ça que ça porte son nom. Mais ça permet de jouer quand même. Et quand tu joues en solo, du coup, Enfin, je sais pas. Moi, je sais que j'arrive à trouver du plaisir de jeu, et voire même plus qu'avec des joueurs, parce que j'initie souvent des joueurs. Donc, du coup, pendant qu'on fait une partie, tu passes ton temps à réexpliquer des bouts de règles ou des choses comme ça, et du coup, ça nuit à ton jeu, et t'es moins concentré sur ton jeu. Au final, t'as fait une partie où t'as joué qu'en demi-teinte, parce que t'as accompagné le jeu des autres pour qu'ils puissent comprendre le jeu, mais la partie est finie, t'en fais pas forcément une deuxième derrière. Merci, bonsoir.
Ouais.
Donc c'est frustrant.
Oui.
Que BGA, si t'as envie, je vais reprendre encore l'exemple d'Ark Nova, t'as envie de te confronter à quelqu'un qui sait un peu jouer, ou qui sait jouer tout court, c'est l'occasion.
Ouais.
Donc,
tout à fait.
Moi, là, je joue à Ark Nova, j'y joue depuis décembre, je joue qu'avec des gens qui débutent comme moi. J'ai pas fait de partie encore avec deux gens qui avaient quelques parties dans les pattes.
Bon, faut qu'on joue ensemble alors, du coup.
J'en suis à 17 parties, 14 victoires.
Oui, d'accord. Très belle statistique.
Merci.
Après, du coup, pour pallier un peu à ça, au bar, tous les vendredis soirs, on fait des soirées table ouverte. Où, du
tout
coup,
à
justement,
fait.
Vous pouvez venir tout seul et du coup, trouver des gens avec qui jouer, des groupes de joueurs pour vous permettre de tester des jeux, justement, et de pas être tout seul.
Et de pas être tout seul. Tout à fait. Allez, fermons cette parenthèse sur les jeux solo. Reprenons. Donc, on en était Ella Electa de la Montagne, dont on vient de vous parler. Deuxième nommé, Faraway.
Faraway, c'est un peu bizarre. C'est un jeu qui est très très simple. C'est une toute petite boîte. Donc, pour la catégorie initiée qui est censée avoir des jeux un petit peu plus consistants, quand même, c'est vraiment un petit peu une surprise de le voir là. Mais mine de rien, en l'ayant testé, en gros, c'est un jeu de très simple où on va récupérer 8 cartes et il faudra faire le plus de points possible avec ces 8 cartes. Voilà.
Ouais.
Et en fait, la réflexion est assez difficile parce qu'en fait, on va devoir résoudre notre tableau de cartes dans l'ordre inverse. Donc, en fait, on choisit nos cartes dans le mauvais sens.
Ouais.
Donc il va falloir essayer de se dire, je récupère ça, mais j'ai pas encore les ressources pour la valider, donc il faut ensuite que je récupère les ressources qu'il faut. Et en fait, du coup, il y a vraiment une réflexion assez poussée, finalement, pour bien réussir sa partie. C'est très intéressant.
C'est vrai que c'est l'idée qui émane un petit peu de tout le monde, c'est-à-dire une mécanique de jeu ultra classique, qui invente absolument rien. Mais par contre, le comptage à l'envers, ça va t'amener à réfléchir différemment, et du coup, ça donne un petit peu de piquant au jeu. Tu as aimé toi aussi, Camille, Faraway ?
Ouais, je trouve que c'est très simple effectivement, mais en même temps ça fait un peu fumer le cerveau quand même, donc moi je le trouve assez agréable.
Ouais, puis il est joli, il est bien édité, c'est bien fait, c'est bien pensé.
C'est bien produit, ouais. Et ils ont même pensé à des choses un peu bizarres, un peu surprenantes pour un jeu de plateau, c'est-à-dire qu'il y a 4 boîtes différentes, avec 4 illustrations différentes. donc tu peux choisir ta boîte. C'est ouais. Le même jeu évidemment à l'intérieur, hein, mais bon, ça s'est déjà vu hein, pour des jeux de
oui,
faire
oui,
comme ça, des
ça,
développements
ça
avec des boîtes différentes.
C'est plus un coup marketing qu'autre chose,
ouais.
Mais bon,
ouais.
pour les collecteurs.
Comme c'est du tout petit matériel et que c'est ouais. La toute petite boîte, c'est peut-être pour ça qu'ils ont essayé de faire un coup un peu plus impactant sur à quoi ça ressemble. Quoi d'autre sur Faraway ? Est-ce que vous voyez autre chose à dire ?
Eh ben non. Alors c'est vraiment une toute petite boîte. C'est, à mon avis, je pense que 25 boîtes de Faraway pèsent autant qu'une boîte d'Ella à l'éclat de la montagne. Mais non, c'est bien. Il aurait presque pu être en as d'or normal, même s'il est un petit peu complexe pour ça.
Je pense aussi.
Ouais. Ouais, c'est très élégant.
J'aurais préféré le voir dans la catégorie as d'or que dans la catégorie.
Ouais, il est un poil trop complexe pour ça. Ouais, mais bon.
Ouais, un poil trop complexe, en même temps on en reparlera quand on arrivera à la catégorie As d'or.
Oui.
Enfin, je veux dire, un mot qui va pas rimer avec As d'or cette année, c'est règle compliquée, hein, clairement. Je sais bien qu'il y a la catégorie expert pour ça, mais là, enfin bon bref, on en reparlera quand on sera aux As d'or, je pourrais cracher mon venin. Non tiens, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé du jury de l'As d'or. Alors j'ai pas pris avec moi le nom des 8-10 jurys, mais il faut quand même dire qu'ils font un boulot d'enfer, parce qu'ils annoncent des milliers de parties dans l'année pour pouvoir tester tous les jeux. Ils disent qu'ils ont testé la majorité des jeux qui sont sortis en France. Tu m'étonnes qu'ils disent qu'ils sont épuisés à la fin de l'année. Moi je me demande toujours qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend par j'ai testé un jeu, parce qu'on en reparlera pour l'As d'or. Moi j'ai testé Trio, j'ai fait une partie, ça m'a pas envie d'en faire une deuxième. Pour préparer cette émission, j'en ai fait une deuxième. Maintenant je sais que j'en ferai pas une troisième. Voilà. Donc tester un jeu, c'est vrai que quand tu fais une première partie que t'as un a priori négatif, on n'a pas tous la volonté de se forcer à se dire je vais en faire une deuxième quand même. Bon, quand t'as payé ton jeu 70€, je comprends mieux, mais, mais voilà, quand t'es sur une petite boîte comme Trio, le premier contact est pas bon, oui, il peut s'écouler du temps avant un deuxième, quoi. Donc, bon.
Surtout qu'il y a tellement de jeux qui sortent que aujourd'hui, il y en a un qui te plaît pas, tu vas voir sur un autre.
Bah ouais, complètement.
Alors qu'en vrai, il y en a qui mériteraient quand même d'être poussés.
Mais du coup, on ne pourra jamais avoir la promo nécessaire pour reconnaître tous les bons jeux qui sortent dans une année, puisqu'il y en a trop.
Oui, il y en a trop, mais il y en a
beaucoup.
Quand
tu vois, moi je lis, je sais que vous lisez aussi un peu la presse ludique, les magazines de jeux de plateau qui sortent de façon mensuelle ou bimensuelle, ils couvrent pas mal de jeux déjà en vrai, hein, mais... Mm. Ils peuvent pas tout couvrir, c'est pas possible, sinon ils sortiraient un annuaire tous les mois. Enfin, ouais.
Non, et puis c'est pas la peine de tout couvrir, parce qu'il y a beaucoup de jeux
qui sont oubliables. Mais parmi tous ceux qui sont pas couverts, il y a forcément des jeux qui ne sont pas oubliables, qui sont pas couverts. Mm. C'est obligatoire.
Sur le jury qui teste 1200 jeux, si on veut tout tester, ça fait 4 jeux par jour, tous les jours. Ils ont une vie à côté, donc possible.
Ouais.
Donc il y a beaucoup de jeux qui sont testés par certains et pas par d'autres.
Bon,
il y a des jeux où juste on en entend parler et puis on se fait un avis comme ça. Alors forcément, c'est pas très objectif, mais c'est forcément subjectif de faire une sélection pareille.
Ah bah oui.
Donc faut faire au mieux et au moins pire, je sais pas. Mais je pense pas qu'il y ait de vraies bonnes solutions au final.
Alors, dernier jeu nommé dans la catégorie initiée, Cat in the Box. Alors, je vais m'accrocher à la table. L'auteur, c'est Nuneyuki Yokushi. C'est illustré par Osamu Inoue et c'est édité par Matago.
Yes, bravo. Bien joué.
Merci. Alors, qu'est-ce que ça donne, Cat in the Box ?
Eh ben, c'est un jeu de plis. En tout cas, ça se revendique comme un jeu de plis, mais où, en gros, les cartes n'ont pas de couleur. Normalement, les jeux de plis, on a pique, carreau, trèfle, ou alors rouge, bleu, jaune, j'en sais rien. Et là, les cartes n'ont pas de couleur et on décide de la couleur de la carte au moment où on la joue. En fait, ça fait vraiment une grosse variation, une grosse nouveauté. C'est la première fois qu'on voit une mécanique comme ça. C'est vraiment hyper original pour le coup. Et c'est très déstabilisant du coup.
Ouais.
Et les joueurs qui jouent beaucoup à des jeux de plis, les experts du tarot, de la belote et tout, je pense, vont pas du tout aimer. Parce que ça va complètement les prendre à contre-pied.
Ouais, bien sûr, c'est normal.
Et donc c'est assez complexe. Et voilà, moi j'adore. C'est vraiment génial.
Et toi Camille, qu'est-ce que tu en penses de Cat in the Box ?
Moi je trouve que les règles sont simples, mais le jeu est extrêmement complexe. J'ai eu du mal sur les premières parties justement. Mais pour le coup, les jeux de plis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pousser. Et du coup, j'ai réessayé plusieurs fois. Il y a encore des choses que je comprends pas forcément quand j'y joue, pourquoi les gens font tel move ou tel move. Mais en fait, au fur et à mesure, je comprends des petites choses et du coup, je teste des choses. Et du coup, je le trouve assez intéressant. Mais plutôt, pour le coup, plus expert que initié pour moi.
D'accord.
Enfin, faut vraiment pousser le truc pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants des mécaniques du jeu.
Alors, un pronostic sur cette catégorie initiée ?
Moi, je suis plus sur Faraway, du coup.
Et moi, ce serait plutôt Cat in the Box, quand même, qui est vraiment très, très adapté à la catégorie et qui est tellement innovant que voilà, je trouve génial.
Je suis d'accord avec Camille pour Faraway sur cette catégorie-là.
Ouais, j'ai bien compris, merci.
Voilà. Allez, on va passer donc à la troisième catégorie, qui est la catégorie expert. Alors c'est la catégorie la plus enquiquinante pour pouvoir tester les jeux, parce qu'on est sur du très très gros jeu, du jeu qui est pas forcément donné en plus, ouais. Donc c'est pas, l'accessibilité en tant que consommateur elle est pas systématique. Heureusement qu'il y a des bars à jeux, y compris à 9h pour pouvoir tester les jeux. Non, je vous tire une balle dans le pied là, c'est des nouveautés, c'est pas dit que vous les ayez.
Et si on les a?
Bravo.
Bon, on les a à la maison parce
qu'on les...
mais ils pourront être disponibles au bar si besoin.
Alors, sont nommés dans cette catégorie jeu de l'année expert, Famiglia, Château Blanc et Darwin's Journée. Alors attention, vous verrez, il y a un autre jeu Darwin qui a été nommé dans une autre catégorie. C'est pas la même chose, donc celui-là c'est Darwin's Journée. Alors, on va commencer par la Famiglia. C'est un jeu de Maximilian Mariatel, illustré par Weberson Santiago, et c'est édité chez Super Maple. Alors, Famiglia, de quoi ça parle ?
En gros, c'est un jeu qui va parler de la guerre entre les différentes familles mafieuses en Sicile. Donc, ouais. C'est un thème très particulier.
Ouais.
Et c'est un jeu qui aura la particularité de se jouer uniquement 2 contre 2.
D'accord.
Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de mode solo, il n'y a pas de mode 2 joueurs, il n'y a pas d'ajustement. C'est un jeu qui se joue à 2 contre 2 et c'est tout. Et en gros, on va essayer de faire des actions du mieux possible pour conquérir des territoires. La Sicile est divisée en différents départements, enfin voilà. Et il va falloir essayer de contrôler ces secteurs-là à la fin de la partie pour pouvoir gagner, tout simplement. Donc on va aller brûler des labos de drogue des autres, on va aller essayer de saboter des usines, j'imagine assassiner des personnages adverses, etc., etc. Alors on l'a pas testé celui-là, il est sur notre table à la maison, on a lu les règles mais on n'a pas encore fait de partie.
Mais la mécanique de 2 contre 2 c'est une grosse contrainte quand même.
Oui, oui. C'est une énorme contrainte.
Soit le jeu il est formidable et t'es prêt à passer outre cette contrainte et tu vas te débrouiller pour amener du monde chez toi pour pouvoir jouer en 2 contre 2. Soit le jeu, il est bien, mais voilà,
ouais,
c'est un jeu qui va rester sur l'étagère.
Ah bah c'est hyper casse-gueule ça, c'est sûr.
Je suis bien d'accord que autant il y a des mécaniques ou des contraintes de jeu qu'on veut bien passer que celle du nombre de joueurs obligatoire, c'est T3, tu peux pas y jouer, alors que les autres jeux tu peux.
Hein, oui.
Donc ça peut vite être compliqué. On enchaîne tout de suite avec Château Blanc, c'est un jeu d'Isra et de Chez, illustré par Joanne Guardier et qui est édité chez Yellow.
Château Blanc, donc, c'est un jeu expert avec du coup tout son lot de règles, de petits détails, de petits points, etc. et qu'il faut quand même se manger. Mais en même temps, c'est des parties ultra courtes qui vont durer 45 minutes, 1 heure. En tout cas, nous, on l'a testé à deux. Et du coup, c'est un petit peu surprenant de devoir ingérer autant de choses et en même temps de pas pouvoir les mettre en place. Donc moi, je trouve qu'il a un côté assez frustrant. Et j'aime pas trop ce type de jeu.
Alors que moi je dirais qu'enfin un jeu expert qui dure pas 2h30.
Oui, c'est sûr.
Et c'est chouette. Alors le tout bercé dans une ambiance Japon médiéval.
Oui.
Bon, enfin, je dis ça parce que c'est pas une thématique dont je raffole, le Japon médiéval sur les jeux. Il y en a plein. Et pourtant, bon, là ça colle bien. Enfin, je veux dire, c'est pas trop. J'ai pas trouvé la thématique étouffante.
Tout à fait.
Ouais, elle est peut-être même un petit peu légère, on va dire. On se sent pas tellement immergé
truc. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre.
On fait nos actions aussi. On optimise, on met nos personnages, etc. C'est très bien, c'est très rapide.
Donc, Château Blanc. Alors, pour finir, dans cette catégorie expert, Darwin Journée. Donc, c'est un jeu de Simone Luciani et de Nestor Mangone. C'est illustré par Paolo Votto et je dirais que c'est un jeu italien.
Oui, c'est un jeu italien.
Et alors, l'éditeur, Thundergriff Game. Voilà, mais c'est distribué par BlackRock en France.
Ouais.
Mais alors, un éditeur que je connais pas, c'est pour ça que je le dis comme ça, Thundergriff Game.
Voilà. Il fait que des jeux experts, des jeux un petit peu de ce genre-là. Il y en a pas des masses.
Alors, Darwin Journée, qu'est-ce que vous en avez pensé? Puisque la presse, elle, en a pensé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.
Oui, dans les trois jeux, il y a surtout Darwin's Journée et la Famiglia, dont on a beaucoup entendu parler, nous. Après, sur Darwin's Journée, donc, c'est un jeu de pose d'ouvrier. Donc, la mécanique de pose d'ouvrier, c'est que vous avez un grand plateau avec plein de cases où vous allez pouvoir faire des actions. Mmh. Et en gros, vous avez des petits pions que vous allez poser sur ces cases pour faire l'action, entre guillemets. Mais une fois que vous vous êtes posé, les autres ne peuvent plus y aller. Donc, en fait, il va falloir bien choisir les actions qu'on va faire. Voilà, c'est la mécanique de pose d'ouvrier.
Donc, Darwin's Journée, a priori, quand même, enfin, du matériel de fou dans la boîte, il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses et ça a l'air d'être assez bien fini, assez beau. J'ai vu aussi qu'il était pas cher pour un jeu expert. Enfin, là, a priori, il ne faut pas s'attendre à un budget de 70€ sur celui-là.
Non, non, c'est justement le budget assez ramassé. Par contre, le matériel de fou, oui, c'est un matériel assez classique en fait. Il y a des petits pirons en bois et puis des jetons en carton. Et voilà, il n'y a rien d'original pour le coup.
Parce que donc, celui-là, il a fait l'éloge de toutes les critiques. Enfin, tous les critiques de jeux, qu'ils soient en ligne ou sur catalogue, nous ont dit que c'était la pépite de l'année quand même.
Bah, du coup, on n'a pas eu le temps de le tester. On a juste lu les règles. Pour l'instant, ça nous semble être un fourmillement de choses à faire avec des améliorations d'action, voilà. Et il y a l'air d'avoir énormément de choses, donc il a l'air plutôt complexe et pas forcément élégant, je dirais, en fait, sur tout ce qui est possible de faire, même dans les
petites... Tu veux dire qu'il n'a pas la règle élégante?
Même alors... dans les petites iconographies et tout, en fait, donc là, on a fait toute la mise en place, on a regardé les règles, et en fait, il y a plein de petits détails qui sont des fois des couleurs qui ne sont pas forcément adaptées. Pareil, sur tout le plateau, c'est très gris, noir, blanc, enfin, il est assez sombre.
La lisibilité n'est pas l'air top, top.
Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai quand même vu sur ce jeu-là qu'on nous disait que c'était une expérience qui était immersive, donc qui voulait aller vous plonger dans son ambiance quand même. Mais j'ai vu aussi que c'était un jeu qui était exigeant en termes...
Ah oui, ça c'est certain.
J'imagine.
Donc, enfin, bon, c'est le genre de jeu où, effectivement, tu n'as pas intérêt de mettre un film en fond pendant que tu fais la partie ou un truc comme ça. Enfin,
ah oui,
clairement,
non.
Donc, on est sur la catégorie expert.
Oui,
en même
c'est
temps,
ça.
Donc, il faut quand même allumer quelques neurones.
On a hâte de le tester, du coup.
Je me doute bien. Pronostic sur cette catégorie jeu expert.
Malgré le nombre de joueurs un peu limitant, moi je
serais
plus pour la Familia, ouais.
Et moi du coup, j'en sais trop rien au niveau sensation de jeu. Par contre, au niveau édition, je pense que la Familia est clairement au-dessus des autres. Les Châteaux Blancs, la règle est pas top, il y a quelques petits ajustements qui devraient être faits. Le Darwin's Journée, c'est pareil, de ce qu'on a vu, il y a quelques petites erreurs, il y a quelques petits trucs. En fait, c'est pas grave, ça en fait pas un mauvais jeu, mais pour une catégorie, pour être nommé parmi 1200 jeux dans une catégorie comme ça, pour moi le jeu, il doit être irréprochable, il doit être fait, revérifié, etc. Et pour moi, Château Blanc et Darwin's Journée, ils ont pas été suffisamment bien finis par rapport à...
Et pourtant, si je veux me faire l'avocat du diable, pense à l'an dernier et Ark Nova. Ark Nova, depuis, il y a une version 2 des règles, avec des modifications sur le compteur de points, sur des trucs comme ça. Rien de vraiment fondamental, mais comme s'il y avait quand même besoin d'un petit débugage après la sortie du jeu, quoi.
C'est vrai. Mmh. Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi que quand un jeu, surtout un jeu est nommé, il doit être irréprochable. Mais aujourd'hui, sur du jeu expert, j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare. Enfin, moi, à chaque fois que je joue un jeu expert, maintenant, je vais voir le site de l'éditeur pour voir les ressources qu'il met à disposition gratuitement sur son site. Parce qu'on va trouver des erratums de règles, on va trouver parfois des pions supplémentaires ou des termes à changer. Il y a écrit tel truc sur une carte de jeu, faut l'interpréter un peu différemment.
Ouais.
Et c'est encore plus le cas quand c'est un jeu qui n'est pas français qui a été traduit. Alors là,
pour
l'Asdor, ça ne va pas se produire puisque c'est des jeux français. Mais. Enfin, qu'il y a une majorité de jeux français. Mais voilà. Alors, donc du coup, pour vous, Familia, moi, je ne connaissais pas Château Blanc, en fait, avant qu'il soit nommé. Moi, j'aurais plutôt porté mon choix sur Darwin's Journée, malgré tout. Même si c'est du velu-velu, en termes de règles. On va passer à la dernière catégorie, après notre deuxième pause musicale. Et c'est Camille qui va nous faire notre lancement.
Oui.
Parce qu'elle parle bien mieux anglais que moi. Alors Camille, qu'est-ce qu'on va écouter?
J'ai choisi Nothing Else Matters, donc de Metallica, mais joué par le groupe Apocalyptica.
Eh bien, c'est parti! Et voilà, c'était Nothing Else Matters qui était joué par le groupe Apocalyptica. Je m'en suis pas trop mal tiré.
Très bien. Ouais.
Merci madame. Alors on revient vers vous donc avec nos nommés de l'Asdor 2024. On en était à la dernière catégorie, la catégorie jeu de l'année. La catégorie qui s'appelle tout court Asdor. Alors, du coup, on a trois nommés. On a de nouveau un jeu qui parle de Darwin qui s'appelle Sur les traces de Darwin. On a le jeu Trio et on a le jeu Perfect World. Alors, c'est vrai que la différence par rapport aux autres catégories, même pour nous, je sais pas vous, moi, j'ai testé les trois.
Oui,
là, j'ai eu l'occasion dans l'année de tester les trois, même si le Darwin, c'est un petit peu en session de rattrapage, j'en avais entendu parler tout plein.
Oui.
Donc voilà. Alors, je vous propose qu'on commence par Sur les traces de Darwin. Donc, rien à voir avec le jeu précédent. Hein. C'est fait par Grégory Grade et Mathieu Verdier. C'est illustré par David Sidbon et Maud Briand. Et c'est édité chez Sorry, We Are French. Alors, Camille, qu'est-ce qui se passe sur les traces de Darwin ?
Alors moi je trouve que c'est un jeu qui est très bien fait, l'iconographie est vraiment très bien faite et du coup on sait exactement les actions qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Le jeu est très simple, vous prenez une tuile, vous la posez, vous n'avez pas le choix de là où la poser et du coup il va se passer des choses, vous allez pouvoir améliorer, récupérer des objectifs, voilà. C'est un jeu qu'on va pouvoir jouer entre adultes, même avec des enfants, en famille et moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce que je le trouve très intéressant, rejouable aussi, on va pouvoir essayer des différentes stratégies à chaque partie. Et un jeu jouable avec tout le monde. C'est un jeu qui emmène vers aussi des notions plus initiées de mécanique de jeu. Et je trouve que ça fait monter les gens aussi, progresser dans le monde du jeu.
Et toi Erwan, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Ouais, je suis plutôt d'accord. En fait, c'est un jeu où à l'explication, il y a pas mal de choses, mine de rien, pour un jeu de cette catégorie-là. Il faut sélectionner une tuile en fonction de est-ce que c'est le bon continent, est-ce que c'est le bon animal. Évidemment, il n'y a pas le choix de là où je le mets sur le plateau, mais est-ce que je vais recouvrir une tuile ?
Ah, bien sûr.
Ouais. Du coup, est-ce que je vais peut-être perdre des points, mais ça va m'apporter un bonus qui va me permettre de récupérer un objectif. Enfin, il y a pas mal de choses qui s'imbriquent, mine de rien. Mais dans toute la partie qui va durer moins de 30 minutes, même à 5 joueurs, ça dure moins de 30 minutes,
ouais,
et ben tout ce qu'on va faire, c'est récupérer 12 tuiles, les placer, et puis fin de l'histoire en fait. Donc c'est rapide, c'est élégant, tout est écrit sur le plateau.
Moi aussi, j'ai trouvé la mécanique très simple en fait.
Ouais,
très simple et qui fonctionne bien. Donc ces deux adjectifs qui vont pas forcément ensemble. Enfin, un jeu avec une mécanique simple, on a tendance à vite s'enlacer. Enfin,
ouais.
Et du coup, c'est ce qui m'inquiète avec ce jeu là parce que j'ai pas beaucoup de parties au compteur pour le moment. J'ai peur de m'enlacer vite. Je me souviens l'an dernier, on parlait beaucoup de District Noir, je ne sais plus s'il avait été nommé ou pas.
Ouais, il avait été nommé.
Il ne l'avait pas remporté.
Ouais.
On était en plein dedans, on avait 10-15 parties dans les pattes, mais la vérité, c'est qu'après ces 10-15 parties, on n'y a plus joué. On n'y a plus joué, lassé, en se disant, tiens, il n'y a plus vraiment de surprise à jouer avec.
Alors, je trouve que c'est super rare d'avoir un jeu auquel on a envie de faire plus que 10-15 parties, en vrai. C'est vraiment, c'est rarissime. En fait, il y en a tellement que en fait, on a souvent envie de passer à autre chose, de faire nous des jeux où on a fait plus que 10-15 parties, ils se comptent peut-être pas sur le doigt d'une main, mais
Moi qui consomme beaucoup de jeux, j'ai quand même toute une étagère intégralement de jeux que j'aime et que j'aime rejouer, et il y a des jeux de toutes les époques que je collecte depuis 25-30 ans, et donc du coup il y en a, j'en suis à 100 parties peut-être, et sans souci. Enfin, je pense à du Tikal, je pense à du Colon de Catane, je pense à du Anno 1701. Anno 1701, c'est pas très connu par exemple, mais c'est les Colons de Catane avec Découverte de Zille, c'est inspiré du jeu vidéo avec la mécanique des colons de Catane. Bon, je sais pas combien j'ai fait de parties, mais je me souviens que quand j'ai fait l'acquisition de ce jeu, on en a déjà fait 40. On avait compté parce qu'on a fait des stats sur les 40 premières parties en quelques mois, hein, donc du coup tu vois, c'est pas que de l'addiction, c'est aussi se dire, merde, celui-là il est bien, j'ai envie d'y rejouer.
Ouais.
Et c'est ce que ça me fait avec Ark Nova depuis le mois de décembre.
Ouais, nous aussi,
je
disais, pareil,
je sais que j'ai fait 18 parties. Il n'y a pas beaucoup de jeux où je compte le nombre de parties que j'ai faites. Et tous les jours, j'ai au moins une partie qui est en cours quelque part, que ce soit en ligne ou en vrai, pour pouvoir assouvir ce besoin de consommer du jeu. Non, mais voilà, je trouve qu'il y a des jeux. Alors, Darwin, c'est ce qui m'inquiète. Je me dis que voilà, quand j'aurais fait 5, 6, 10 parties, j'aurais peut-être plus envie d'ouvrir la boîte.
Après, je pense que nous aussi, on est très consommateurs de nouveaux jeux de société. Déjà, parce que moi, je trouve ça incroyable, l'inventivité des auteurs et de ce qu'ils peuvent faire. Enfin, ça doit être des esprits torturés de pouvoir inventer des jeux comme ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Et j'adore ouvrir des nouvelles boîtes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont encore sorti. Et moi, je suis plus effectivement dans
est-ce
la consommation.
Est-ce que tu préfères c'est les dépunchés à vous?
Non, c'est l'odeur quand j'ouvre la boîte, je les sniffe comme ça.
Ah, mais je suis pas le seul à avoir une addiction, c'est bon.
Ah ouais, ouvrir un nouveau livre ou ouvrir une nouvelle boîte de jeux, c'est...
Bon, dans tous les cas, on est d'accord tous les trois pour dire que Sur les traces de Darwin, c'est un très bon jeu.
Ouais, c'est excellent.
Deuxième jeu, Trio, un jeu de Kaya Miyano, illustré par Laura Michaud, édité chez Cocktail Game. Alors, avant de parler de Trio, je pense qu'on peut parler de la blague Asdor Cocktail Game. Ça fait 10 fois qu'ils sont nommés, ils n'ont jamais eu d'Asdor. Alors, ouais. J'espère que le Trio ne nous fera pas une DiCaprio avec les Oscars et The Revenant, voilà. Ouais. Ah, l'anglais, et où on a presque cru qu'il avait fait le film pour avoir l'Oscar. Bon, Cocktail Game n'a pas fait le jeu pour avoir l'As d'Or, mais j'espère que le jury ne prendra pas pitié de leur donner pour ce jeu-là, parce que moi, je l'ai trouvé nul.
Et au contraire, moi, je l'ai trouvé vraiment excellent.
Ouais, mais je sais que je suis un peu tout seul dans ma cabane. Ouais.
C'est un jeu qui marche très bien. C'est un jeu de cartes, tout simplement, où on va devoir avoir... on a des cartes en main, et le but, c'est de retrouver les trios de cartes. Et quand on a 3 trios de cartes, eh ben, on a gagné.
On a gagné.
Et en fait, la petite subtilité, c'est qu'on doit classer les cartes dans l'ordre croissant dans notre main, et on pourra essayer de demander des cartes aux autres en leur demandant leur plus petite ou leur plus grande, un petit peu comme un jeu de cette famille, finalement. Et du coup, bah, quand on réussit à récupérer, à retrouver comme ça des cartes, eh ben, on les garde devant soi, et voilà.
Ouais.
Donc c'est hyper simple. C'est pas forcément évident au début, l'explication de règles, souvent les gens ils froncent un petit peu les sourcils.
Ouais, ils comprennent pas tout de suite, je suis d'accord.
Ouais. Mais en fait, au bout de 30 secondes, on se dit ah oui, d'accord, j'ai compris, ça marche comme ça. Donc ça mélange un petit peu.
Parce que
mémoire,
c'est très simple, ça paraît trop simple quand tu l'expliques aux gens. Quand leur dis votre action, c'est de demander soit la carte la plus grosse, soit la plus petite à un joueur autour de la table. Ah bon, je peux faire ça? Bah oui, mais comme au sein de famille, effectivement.
C'est
ouais,
ça.
Tout à fait.
Et donc du coup, bah, en fait, c'est un jeu avec des parties qui sont assez courtes, voire même très 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 courtes si on a un petit peu de chance.
Ouais.
Mais on peut en faire énormément. Moi, j'adore ce jeu. Je trouve vraiment d'une simplicité, d'une évidence. Enfin, je me demande comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé plus tôt à ça.
Mm-hmm.
Et voilà, c'est très dans l'esprit Cocktail Game où justement, c'est des jeux un petit peu simples qu'on joue à l'apéro comme ça, qu'on peut enchaîner les parties. Et
ouais, mais on reste dans l'esprit de ce qu'ils faisaient il y a même 10 ans avec les petites boîtes métal et ces petits jeux de cartes super rapides.
C'est ça.
Bon, là, on n'est plus sur l'esthétique boîte métal, mais je crois qu'ils l'ont à moitié abandonné. Enfin, en tout cas, celle de l'époque, là, ces petites boîtes carrées en métal. Mais oui, c'est vrai, ça va vite. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Camille?
Moi aussi, j'ai bien aimé. Ouais, il est simple à jouer et en même temps, on se prend vraiment au jeu et on a envie de réussir. Donc, on peut enchaîner les parties sans se lasser. Et en petit jeu d'apéro, c'est très bien. Ouais.
Bah moi, je l'ai testé une première fois. On était 5 autour de la table, donc pas loin du nombre de joueurs maximum, je crois. Et on a trouvé la partie ennuyeuse. Mmh. On a trouvé la partie ennuyeuse à se demander la plus grande ou la plus petite carte. Enfin, voilà. Alors, effectivement, on a été un peu dubitatif sur les premiers tours à se dire c'est tout ce qu'on doit faire pour jouer. Et oui, effectivement, on l'a dit, les règles sont ultra simples. Donc, bah, le tour de jeu est ultra simple. Vous demandez une carte, soit vous avez bon, soit vous avez mauvais, votre tour est fini. Voilà. Par contre, bah ouais, je suis pas vraiment éclaté à jouer à ce jeu-là.
Ouais.
Et d'ailleurs, la partie nous a pas pris très longtemps, même pour une première partie. On n'a pas eu envie d'en faire une deuxième.
Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup testé à 3 joueurs.
Ouais.
Et il y a peut-être aussi cette notion-là. Parce qu'en fait, à 3 joueurs, ton tour revient beaucoup plus vite. Et donc, dans les cartes que tu as pu mémoriser de ce que les autres ont révélé, bah, c'est plus facile d'aller les chercher, en fait.
Bah ouais.
Alors qu'à 5, j'imagine que bah, tout ce que tu as pu voir passer en un tour, ça a déjà été pris par les autres. Et au final...
Et je l'ai fait jouer pas plus tard que la semaine dernière à un groupe de 4 personnes. Alors là, j'ai pas participé à la partie, mais je l'ai animé pour revoir justement un peu dans l'idée d'aujourd'hui. Et j'ai pas réussi à changer mon opinion dessus, même en regardant les autres jouer, en ayant des informations selon les différentes mains pour voir comment ils se débrouillaient.
Et est-ce qu'ils ont aimé leur partie, eux?
Ben non.
Ah.
Mais alors,
faut que je te remette en question là.
J'ai peut-être pas été un bon animateur, c'est ce que j'allais dire, parce que je leur ai fait tester, je leur ai expliqué pourquoi. Je leur ai dit voilà, je vous fais le tester parce que je fais une émission de radio la semaine prochaine, on parle des As d'Or, il est nommé, donc il va sûrement être élu As d'Or, enfin il va peut-être avoir le prix. Donc c'est un jeu dont on va beaucoup parler cette année. Et je leur ai dit en vrai, moi je l'aime pas.
Ouais, mais c'est pour ça, faut jamais dire ça.
Et en fait, c'était dans le cadre d'un atelier où les gens apprenaient la règle d'eux-mêmes, donc ils devaient lire la règle, et donc je suis resté avec eux. C'est pas moi qui les influencés qui leur expliquaient, et bon, ils ont eu le même avis que moi. Alors d'un côté ça m'a rassuré, d'un côté je me suis dit tiens, je l'ai peut-être mal animé. Bon, en attendant, effectivement, moi, mon coup de cœur sur cette catégorie là n'ira pas sur Trio, même si je crains que ce soit lui qui remporte. Allez, troisième et dernier jeu de toute cette sélection, Perfect World, un jeu de Paul-Henri Argiot, illustré par Christine Alcouf et édité chez Tiki Édition. Alors, Perfect World, qu'est-ce que vous en pensez?
Et eh ben c'est très bien. Alors moi, pour moi, c'est la surprise un petit peu de cette sélection. Autant les deux premiers sur les traces de Darwin et Trio, je me doutais qu'ils y seraient.
Ouais, mais je suis complètement d'accord.
Et celui-là, je me dis bah oh, ok, ah, d'accord.
Moi aussi, quand je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là ?
Alors c'est un bon jeu. Alors il y a pas de doute, hein, c'est un bon jeu, il y a pas de souci. C'est un jeu d'association d'idées où en fait on va essayer de créer notre grille de mots croisés entre guillemets, ouais, avec des cartes qui vont entre elles, enfin en les mettant en relation, on va trouver des mots et le but c'est coopératif, c'est de à la fin de résoudre cette grille de mots croisés en trouvant tous les mêmes mots. Et plus on trouve les mêmes mots, plus on a des points, et plus on est bon, et voilà. Et c'est très bien, c'est très marrant, enfin, c'est des parties qui sont assez simples, mine de rien. Et y a une bonne ambiance autour de la table, mais bah, ça n'a pas l'évidence et l'élégance de sur les traces de Darwin et Trio, même niveau édition, niveau...
Bah ouais,
C'est, ouais, je sais pas trop, voilà.
Toi Camille, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Oui, bah après c'est vrai que moi aussi j'étais surprise de sa sélection. C'est un jeu coopératif de mots croisés entre guillemets, voilà. Et l'idée c'est que ce qui me surprend un petit peu dans ce jeu, c'est qu'on peut discuter entre nous de tous les mots et de toutes les associations qu'on va pouvoir faire, alors sans dire vraiment le mot final, mais en soi c'est presque facile en fait, okay, parce que on s'entend, on a parlé, il y a des petites choses qui se sont dites qui font que c'est pas juste t'as deux mots et tu dois en choisir une association. Avec tout ce qui s'est dit autour de la table, c'est pratiquement facile de trouver
Ce qui se fait. Il y a toujours un petit indice un peu borderline que quelqu'un a dit et du coup ça a aidé tout le monde.
Oui, ouais, bien sûr.
C'est bon, on a compris quoi. Voilà.
Mais c'est pour ça que je disais, moi, je suis déçu de cette catégorie. En plus, c'est la catégorie As d'Or, jeu de l'année.
Ouais, c'est le principal quoi.
Je m'attendais à ce qu'il y ait Darwin, pas de problème. Trio, je m'en doutais aussi un peu. Et puis ça se disait un peu dans les couloirs qu'il y aurait Trio.
Ouais,
un peu sous le ton de la blague, mais en attendant, il y a Trio dans la sélection. Puis bah, il y a lui qui pop un peu là. Et du coup, si moi je dois faire un pronostic, Perfect World, je trouve que c'est pas vraiment sa place d'être dans le jeu de l'année. Trio, je l'ai pas aimé. Donc du coup, c'est par élimination. Moi, mon pronostic, ce sera Darwin, mais par élimination, pas par choix. C'est dommage. Ouais. Voilà.
Après, moi, je suis d'accord avec toi sur, je pense que ce sera Darwin qui va l'emporter, mais moi, j'aurais bien aimé que ce soit Trio qui va l'emporter, mais moi, j'aurais bien aimé que ce soit Darwin, justement, parce que ça emmène les gens vers des mécaniques de jeu plus avancées, et je trouve que ça fait progresser dans le monde du jeu, et je trouve
ça,
vraiment très bien.
C'est bien ta dynamique cette année, quand même. Tu vas jouer à Super Miaou. Non, mais moi, je veux t'en
faire.
Tu joues à Super Miaou. Après, tu pourras jouer à Darwin, comme ça.
Les bonnes résolutions de la nouvelle année, on s'élève cette année.
Et toi, Erwan ?
Bah pareil, mon pronostic c'est Trio. C'est vraiment parce que c'est le jeu qui est fait pour l'As d'Or. Après, je suis tout à fait. Si c'est Darwin qui l'emporte, je serais très content aussi et il le mérite tout autant. Mais si c'est Darwin qui l'emporte, je pense que l'éditeur Cocktail Game il se tire une balle parce que là.
Clairement, mais je crois que le monde du jeu ils ont vraiment peur que Mathieu Despenou il se tire une balle avant de pas gagner.
C'est ça.
Bon, c'est vrai que c'est pas de chance d'être nommé 10 fois
et de pas l'avoir.
Pas l'avoir une seule fois. Après, il a été nommé les 3 années où il y a eu du Seven Wonders le duel et l'architecte.
Ouais, non, mais ça c'est vraiment.
Il s'est retrouvé en concurrence en face à chaque fois et là, soyons francs, on a fait nos pronostics, on avait dit les jeux à côté de la licence Seven Wonders, ils n'ont aucune chance. Antoine Boza, il a fait un travail d'orfèvre là-dessus. C'est pas, il y a rien à redire. Et encore des années plus tard, on continue à jouer à tous. On parlait des jeux auxquels on ne joue pas forcément 10 fois. Je sais pas vous, mais moi, ça fait partie, les trois font partie des jeux que j'ai joué. Architect, je dois être à 100 parties.
Ouais, alors celui-là, non, pour le coup. Celui-là, on a fait 10 parties.
Et duel, à peu près pareil. Il n'y a que le premier auquel j'ai un peu moins joué parce que c'est sympa quand on est vraiment beaucoup.
Ouais.
Et du coup, c'est pas la même logistique de jeu. Donc, on récapitule un petit peu nos pronostics, ceux qu'on gagnait au moment où vous avez vu l'émission, ceux qu'on gagnait hier, la semaine dernière. Donc, pour la catégorie enfant, il y avait Puzzle Aventure, Maurice le Dodo et Super Miaou. Camille et moi, on vote pour Super Miaou.
Et moi, plutôt, du coup, pour le Puzzle Aventure.
Vous avez entendu le jury de l'As d'Or, faudra prendre tout ça en compte. Ensuite, dans la catégorie initiée, nous avions Ella et l'éclat de la montagne, Far Away et Cat in the Box.
Moi, j'étais plutôt sur Cat in the Box.
Et moi, Far Away.
Far Away aussi.
Ensuite, dans la catégorie expert, nous avions la Familia, le Château Blanc et Darwin's Journée. Et vous deux, vous étiez plutôt Familia, c'est
ouais,
ça
la Familia, ouais.
Et moi, Darwin's Journée. Et pour finir, pour l'Asdor, donc, on l'a dit, on aimerait bien voir gagner Darwin, mais ça va sûrement être Trio. Voilà.
Ouais. C'est ça.
Eh bien, merci Camille, merci Erwan, je reviens vers vous en toute fin d'émission. Ah non, non, je ne reviens pas vers vous en fin d'émission, je voulais aborder un dernier sujet, ils ne le savent pas, ils ne sont pas préparés. vous avez reçu Jeux de Plateau Magazine, donc le magazine, c'est un magazine belge qui est mensuel et c'est l'une des principales sources et critiques de jeux encore aujourd'hui sur le marché.
Ouais.
Est-ce que vous avez vu qu'ils avaient dédié une page à ce youtubeur qui tient la boutique Le Passe-Temps à Toulouse, puisqu'il fait du J-Sport ou du J-Game, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, c'est-à-dire qu'il se fait chroniqueur à la manière d'un chroniqueur sportif sur des parties de jeux de plateau. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ça ?
Alors, j'ai pas lu l'article encore, là, je suis en train de le lire, Le Plateau, justement, et du coup, j'ai vu ça de loin, alors j'ai pas trop compris, je me suis pas renseigné plus que ça.
Et bien alors, moi, ça m'a fait pareil, sauf que du coup, je suis allé voir. Donc, au début, j'ai cru que le J-Sport, c'était une version jeu de plateau du e-sport, comme on voit les. Mais finalement, on a déjà des tournois de jeu de plateau, donc c'est une forme sportive du jeu de plateau, mais on pourrait imaginer. Donc, en fait, c'est juste le fait de commenter pour le moment des parties en mode un peu. On commente ça comme si c'était un événement sportif. Donc, je suis allé voir les vidéos parce que. C'est vrai que l'article encense pas mal ce que fait c'est Simon qui s'appelle.
Ouais, Simon du Passe-Temps.
Encense pas mal, il a fait 2-3 vidéos. Donc je suis allé les voir et donc j'aurais bien aimé avoir votre avis parce que comme Trio, je trouvais ça nul.
Malheureusement, on ne l'a pas vu, donc mais on va s'empresser d'aller regarder tout ça.
Non, mais voilà, parce que j'ai déjà vu pas mal de parties commentées et sans la formaliser en disant c'est du J-Sport ou je sais pas quoi ou du J-Game, et qui était, c'est vrai que selon le commentateur qu'il y a, tu as une qualité de vidéo différente, c'est inéductable. Mais là pour le coup, il veut mettre en avant cette pratique et tout ça, et j'ai pas trouvé ça. Ni fondamentalement intéressant, parce que on chope pas d'infos sur le jeu, c'est-à-dire tiens, il a joué le pion mur. Alors effectivement, si t'as les infos de la règle du jeu ou des choses comme ça, mais bon, moi j'ai pas trouvé ça dingue du tout. Je me suis demandé pourquoi faire toute une page là-dessus dans Plateau Magazine, alors que ça ressemble à un délire entre potes, quoi. Je peux faire pareil un vendredi soir au local, en vrai, ça sera peut-être même mieux.
Je trouve qu'au niveau des jeux de société moderne, en fait, il y a un truc qui change par rapport à des jeux vraiment compétitifs, c'est-à-dire que c'est pas l'expérience qui prime. Ce qui prime, c'est-à-dire que on peut très bien avoir joué 100 fois à un jeu, si quelqu'un y a joué 4-5 fois puis qu'il maîtrise un peu les règles, c'est pas pour ça qu'il va se faire écraser.
Enfin, complètement.
On est à peu près assez vite sur un pied d'égalité en vrai, alors que aux échecs, au go, enfin tous ces jeux qui sont très anciens, très compétitifs, sur lesquels on peut vraiment commenter, y a vraiment une expérience du joueur qui prime complètement. Alors que là aujourd'hui, même un jeu expert, c'est plutôt le fait de jouer tous ensemble, de s'amuser et de pas se faire écraser et marcher dessus par les autres qui prime.
Mais regarde le fonctionnement des jeux de manière générale, mais encore plus des jeux experts aujourd'hui, c'est que tu peux pas avoir de vraie stratégie systématique sur le même jeu.
Ah bah oui, c'est sûr.
Tu vas être obligé de composer avec tous ces jeux et de cartes et de placement d'ouvriers, de deck building. À chaque partie, c'est des jeux, on dit que ces jeux se renouvellent, mais c'est vrai, tu peux pas devenir un sportif du jeu comme tu pourrais l'être, comme tu le disais, aux échecs, où tu sais qu'en faisant telle ouverture, telle fermeture, et bien que on n'est pas des grands joueurs d'échecs, donc un joueur d'échecs nous dirait mais non, vous vous trompez parce que c'est pas il y a aussi de la surprise, mais c'est vrai que quelqu'un qui joue bien aux échecs, il a tendance à gagner contre quelqu'un qui joue moins souvent.
Ouais, c'est pas la vocation du jeu de plateau moderne de faire ce genre de choses. Alors il y a des tournois, mais c'est plus des tournois pour s'amuser. Il y a des tournois d'Ark Nova, il y en a plein, mais c'est pas pour avoir la fierté d'être champion du monde d'Ark Nova parce qu'on est meilleur Ark Nova, c'est pour jouer, faire des parties, enfin c'est
on en reparlera quand je serai champion du monde.
Mais ouais, non, je comprends pas trop l'intérêt de là, je vois pas trop l'intérêt de faire des commentaires comme ça sur les parties.
Ouais, mais vous irez voir, on en reparlera. Peut-être une prochaine émission, on invitera Simon du Passe-Temps. Oui. Merci en attendant, Camille. Merci Erwan d'avoir été mes invités aujourd'hui.
Merci à toi.
Alors, pour le programme du Conservatoire du jeu du mois de mars, alors on vous attend tournant parce qu'on a notre plus gros événement du premier trimestre et ce sera tout de suite début mars, le samedi 2 mars, les petites geekeries à la grande salle des Édouins de Nevers, comme d'habitude, de 17h à 1h, avec une entrée gratuite et un accès au jeu gratuit, bien évidemment, ainsi qu'aux animations. Alors, au programme, comme d'habitude, on vous met à disposition du jeu de plateau, du jeu de rôle, du rétro gaming. Il y aura également une exposition de jeux de plateau sur la thématique de la nostalgie des années 80. Et puis, ce sera le retour de nos animations avec notre Double XXL, mais surtout notre Hippo-Glouton géant qui avait cartonné la dernière fois. Donc, il y aura des parties d'Hippo-Glouton géant qui seront programmées. cramer. Mais qui dit petite geekerie dit également exposants. Donc on aura quelques exposants qui vont venir nous rejoindre. Alors parmi les exposants, on peut déjà vous annoncer qu'on aura Odoroke Buki, le Japon à Nevers, qui viendra vous présenter des produits japonais. Donc tout ça, je vous le rappelle, c'est le 2 mars à la Grande Salle des Edouins à partir de 17h. Alors vous pourrez nous retrouver également le vendredi 8 mars au Pot Commun, comme d'habitude, de 20h à 22h. On fait une soirée jeu avec les copains du Poco. Et puis pour nos adhérents, vous pourrez nous retrouver le 22 mars pour notre soirée adhérent au Pot Commun également. N'oubliez pas, nous avons lancé le mois dernier une exposition au bar à jeux ludiques et ludiques. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui,
c'est très sympa. C'est très sympa. On a lancé donc notre exposition itinérante avec comme premier lieu d'exposition le barrage ludique et ludique. Donc nos vitrines sont visibles là-bas. Et d'ailleurs, vous vouliez nous parler d'un événement que vous aviez au mois de mars. On n'en a pas parlé.
Oui, tout à fait. Alors, samedi 9 mars, du coup, c'est l'anniversaire du bar, nos 1 an.
Waouh. Voilà.
Du coup, on va faire une petite journée spéciale. Donc, on est ouvert un peu comme d'habitude de 15h à 1h du matin. Et puis, il y aura des petits événements. Il y aura une sorte de jeu de piste géant un petit peu à faire dans le bar. Voilà, il y aura des petites surprises comme ça. Donc,
venez nombreux.
très bien, on sera là. Alors, vous le savez, notre programme, et on relaiera le programme, hein, bien évidemment, vos programmes sur nos réseaux sociaux. Notre programme ne cesse de s'enrichir chaque semaine, vous le savez, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, X, enfin bon, on y est de moins en moins. Mais on a aussi notre site internet, bien évidemment, sur la page programme leconservatoiredujeu.fr, pour ne rien manquer. Notre émission se termine. Camille, Erwan, un petit mot pour la fin?
Eh ben merci beaucoup pour l'invitation, une fois de plus, rien. Et puis à une prochaine avec plaisir.
Oui, pour tester plein de jeux.
D'accord. Merci les amis d'avoir été mes invités pour cette 54e émission de À quoi qu'on joue. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le podcast de Bac FM sur bacfm.fr, mais aussi sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Jeu. Alors, d'ici le mois prochain, soyez ludiques.